l'émission demain.
La culture.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir, il est vendredi 17h et vous êtes toujours sur l'antenne de RVR, fidèle au poste, pour retrouver votre émission culturelle hebdomadaire, Culture en demain. Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir.
Bonsoir à l'équipe et aux invités. Enfin aux invités, on a quand même...
À l'invité prestigieuse
et un petit peu membre de l'équipe tout de même, puisque... Nous recevons Claire Girard, membre de Culture en Demain, qui va nous parler un petit peu de son actualité. Mais tout d'abord, on va faire le tour un petit peu de ceux qui sont toujours présents sur le plateau, parce qu'on a quand même pas mal de désistements cette semaine. Il y a des bobos d'eau, des nez qui coulent, mais on fait avec les résistants. On a Valérie pour commencer. Comment ça va, Valérie?
Oui, ça va bien.
Ouais, pas de bobos, pas de plaies, rien.
Non, tout va bien aujourd'hui.
Pas de plaies purulentes, tout va bien.
Ça va.
Bienvenue à l'antenne, Valérie.
Merci.
Laetitia est là, elle est assise au poste de présentateur principal.
Notre cher Denis.
Je vois bien que le monde est ainsi fait, la nature a horreur du vide et les candidatures commencent à se présenter.
La place est prise.
Ça va, Laetitia?
Ça va très bien. On va quand même avoir une petite pensée pour Denis. Qui a quand même une épaule douloureuse et
qui a bobo.
Bah oui, ouais,
il a bobo. Mais Denis Beauchamp.
Mais la relève est assurée.
S'il
veut ne pas revenir, il n'y a pas de problème.
Voilà, et Bergamote est on ne sait où, dispersée dans les étoiles. On pense à elle également. Voilà, donc nos amis nous rejoindront bien sûr très rapidement, on espère, dans les semaines à venir. Mais on est toujours là, fidèle au poste, et on va vous parler un petit peu culture et littérature principalement cette semaine.
Allez. Oui, ce sera une spéciale littérature.
Oui. Avec une première partie, on a la grande chance de recevoir une autrice. Je crois qu'on dit comme ça, hein. On ne dit plus auteur, on féminise maintenant.
Moi, j'aime bien auteur avec un E, mais chacun...
Oui. Eh bien, on dira autrice ou auteur, c'est en tout cas à la hauteur de son talent. On recevra
exactement.
Claire Girard dans cette émission. Allez, c'est parti, c'est Culture en demain, c'est maintenant et c'est sur RVR.
Demain, la culture.
Alors, en ce vendredi 21 mars, date de printemps, nous avons la grande chance de recevoir avec nous Claire Girard. Bonsoir Claire, comment ça va?
Bonsoir, ça va très bien, merci.
Oh, petite voix enrouée un petit peu.
Mais non, à peine.
Un petit peu impressionnée.
Juste de
par
la timidité.
Hein? Alors Claire, on a la grande chance de vous avoir avec nous. Alors, on se connaît bien, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Claire est une membre assidue de Culture en Demain depuis maintenant quelques années. Et Claire, eh bien, on a la chance de la connaître un petit peu en rouennais pour ses multiples casquettes. Elle est tout d'abord comédienne sur les planches des tréteaux rouennais, metteuse en scène également. On la connaît dynamique, virevoltante un petit peu quand il faut mener tout ça à la baguette ou interpréter un rôle sur les planches du théâtre de Rouen. Mais il y a une casquette qu'elle assume peut-être un petit peu moins, ou en tout cas un petit peu plus timidement, et qu'elle a décidé de mettre un petit peu dans la lumière, c'est sa casquette d'auteur ou d'autrice. Je me trompe, Claire?
Auteur, ça me plaît bien aussi.
Oui, auteur. Allez, on reste là-dessus.
Voilà. Un petit peu plus timidement, oui, effectivement. C'est toujours difficile, ouais, je trouve. Écrire, ça demande de se donner un peu plus, de se livrer un peu plus, et c'est toujours un petit peu plus compliqué que de faire l'imbécile sur scène.
Alors,
c'est différent, c'est ça.
C'est un petit peu plus de l'introspection. C'est un peu moins expansif que d'être sur les planches, mais en tout cas, on vous avait découvert avec un premier recueil de nouvelles qui s'appelait Elle en nouvelles, il y a quelques années, je
tout
crois.
Tout à fait.
Un recueil de nouvelles qui
avait reçu un prix, non? C'est celui-ci qui avait eu un prix de la nouvelle?
Les deux.
Oui. Ah, les deux, ok.
Le premier
s'il
a reçu
plaît, madame.
Un prix régional.
Waouh.
Voilà.
Voilà, comme quoi, quand on assume un petit peu son talent, et ben des fois, on trouve son public, chère madame. Et donc, après Elle en nouvelles, elle nous revient avec un nouveau livre qui s'appelle La fin du début. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Claire?
Alors, La fin du début, ce sont toujours des nouvelles, donc un nouveau recueil de nouvelles. Il y a 11 nouvelles dans ce nouveau livre. La fin du début, pourquoi? Parce que chaque nouvelle commence et se termine par la même phrase. Donc, on commence par la fin ou on finit par le début, c'est comme on veut. Voilà, le but était de ne pas dévoiler la chute, mais quand même, je dévoile la fin au début.
D'intriguer le lecteur, en tout cas.
Exactement. C'est comme cette envie d'aller voir bah, les lire, la fin d'un livre policier, est-ce qu'il est toujours vivant?
On l'a tous eu. D'ailleurs, exactement. Bergamote, dès que je présente un livre, ouvre et regarde la dernière page quand c'est un thriller, notamment.
Donc voilà, j'ai pensé à ça un jour et je me suis dit, mais c'est vrai que les gens ont envie de savoir la fin dès le départ. Et je me suis dit, bah voilà, on va faire que des nouvelles comme ça.
Alors c'est quand même un exercice périlleux parce que quand on livre un petit peu la fin dès le début de l'histoire, eh ben, il faut un petit peu de talent pour retomber sur ses pattes, maîtriser l'intrigue, ne pas en dévoiler trop tout de suite. Ça n'a pas été un exercice trop difficile?
Pour certaines, si. Si. Il faut beaucoup d'imagination. Et pour certaines, je me suis beaucoup creusé la tête. Comment aborder le début ou la fin, en tout cas, sans en dire trop, mais quand même en donnant tout de suite le format de la nouvelle, c'est ça. Il faut tout de suite donner au lecteur envie d'aller plus loin dans l'histoire. Donc, pour certaines, ça a été un petit peu plus compliqué que d'autres, oui.
Vous avez fait comment? Vous aviez d'abord la trame de l'histoire et les phrases ou la phrase du début et faire à l'envers?
J'écris souvent plusieurs versions, en fait. Donc j'ai l'histoire, je commence.
La phrase du début arrive à la fin de l'écriture de la nouvelle.
Alors je commence d'abord toujours par le début. Je sais à peu près où je vais, mais je peux aussi recommencer. Je peux écrire d'autres versions quand la chute est un petit peu différente de ce que j'avais prévu. Et du coup, là, à ce moment-là, je réécris toute la nouvelle. Et effectivement, après, je modifie, oui.
Et elle parle de quoi, ces nouvelles? Parce que moi, je me permets, moi, je suis dans la table des matières. Et alors, j'adore les titres. Je suis tombée amoureuse, mais c'est très intriguant encore. Hein. Des boîtes de sardines.
Elle tombe très facilement
amoureuse. Joupe au pantalon. Voilà, visite inattendue, désordre. Enfin, chez mon esthéticienne, elles sont... voilà, où il y a aussi des oliviers dans le jardin. Donc vraiment, ça a l'air très hétéroclite. Enfin, de quoi ça parle? C'est quel genre de nouvelles?
Alors, le truc avec, enfin, le plaisir, en tout cas, avec les nouvelles, c'est qu'on peut, dans un même livre, écrire plein de styles différents.
Oui.
Donc, il y a plein de styles différents.
C'est pour ça que... OK.
Voilà, donc des oliviers dans le jardin, ce sera plutôt une intrigue un petit peu policière. Jupe ou pantalon, c'est une nouvelle beaucoup plus légère.
Des oliviers dans le jardin, je crois que c'était la nouvelle qui avait été primée à Mably.
Oui. Oui, qui a été primée au concours de Mably, mais au niveau national, ça par contre. Voilà, celle-là, elle a été primée.
S'il vous plaît,
voilà,
madame.
Au niveau national. Il y avait à peu près 80 nouvelles, à peu près sur le thème du concours. Voilà. Et puis, il y a des thèmes donc plus légers comme jupe ou pantalon. Les boîtes de sardines, c'est plus une intrigue un peu mystérieuse parce que le lecteur se demande longtemps où je vais en venir. Il y a trois personnages, en fait. Et au bout d'un moment, on comprend ce qu'ils ont en commun et effectivement, on regroupe le tout. Chez mon esthéticienne, c'est quelque chose d'un petit peu plus drôle avec un sujet un petit peu plus...
Il n'y a pas de photo chez l'esthéticienne.
Non, il n'y a pas de photo chez
l'esthéticienne.
Absolument pas. Mort d'un policier, c'est une nouvelle qui est un petit peu plus difficile.
D'accord.
Qui parle de femmes battues. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus dur. Il y a vraiment, vraiment de tout.
Ah oui, donc c'est comme tous les thèmes qu'on rencontre et qu'on traverse dans une vie, finalement.
Oui, exactement.
Ce qui est très intéressant, c'est que souvent, quand on écrit un roman, on a le temps de poser le décor, de poser les personnages et de voir un petit peu où ça nous porte. Là, l'exercice, il est très périlleux quand on fait des chapitres courts. Et Claire, elle a quand même la force pour nous emmener assez rapidement dans son intrigue. C'est tout en sensibilité, en délicatesse. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'avec des mots très courts, avec des histoires courtes, des formats très brefs, ben, elle arrive bien à explorer ses personnages, leur caractère, l'intrigue. Et c'est toujours très rafraîchissant.
Oui, et ça, c'est puissant, finalement. C'est qu'on, si on a le temps de connaître les personnages, justement, on se dit une nouvelle, il faut aller droit au but.
Oui.
On ne peut pas détailler comme Zola, on en parlait justement une fois au salon du livre. On ne peut pas se perdre dans des détails. Et en même temps, il en faut quand même, parce qu'il faut qu'on puisse s'identifier à ces personnages, qu'on a l'impression de les connaître d'une certaine manière. Donc oui, moi, je suis très, très impressionnée et je pense que c'est un des travaux les plus difficiles.
C'est un exercice difficile, une nouvelle, je pense.
Alors après, on s'attache soit à des personnages parce qu'on a vraiment envie de s'attacher à eux, soit on va s'attacher à l'intrigue parce que ça va être ça qui va ressortir le plus. Visite inattendue, ça se passe dans un monastère fin 19e, on va plus s'intéresser au lieu, au mystère, etc. On va prendre effectivement, dans une nouvelle, on est obligé d'aller droit au but, on ne peut pas tout prendre. Et l'environnement, et les personnages, etc. Il faut créer tout de suite une ambiance. Et il faut y aller, mais j'y vais avec la sensibilité que j'ai par rapport à ce que j'ai besoin d'écrire et besoin de refaire sortir. En
Claire, comment on mesure l'efficacité de son histoire quand on écrit des formats courts comme ça? Est-ce qu'on a des bêta-lecteurs, des gens qui sont là pour dire ça t'oublie ou ça tu vas pas assez droit au but, celle-là elle m'a pas touché, celle-là elle m'a, au contraire elle m'a transporté comme histoire?
Oui, j'ai des bêta-lectrices, j'en ai trois. Il y en a une qui lit en tout premier et qui en général me dit que je ne vais pas assez loin, donc je refais. Voilà, et les deux autres là par contre...
Pas assez loin dans le... Dans la longueur de l'histoire ou dans
non,
la
non,
dans
non, pas
la,
assez
la,
loin
la,
dans la
vous allez dans
profondeur
la profondeur de l'histoire
ouais. Ou pas, ou qu'elle a trouvé l'intrigue trop vite ou etc et les deux autres me tatille un petit peu plus sur le
détail.
Sur le détail, oui. Ouais. Alors là, par le coup, voilà, pour le coup, c'est un petit peu plus... voilà, mais heureusement que je les ai. On ne peut pas écrire ça tout seul. Enfin, si certains y arrivent, vraiment oui, bravo, chapeau à eux, parce que c'est trop trop compliqué sur des nouvelles. Il faut vraiment aller...
Après, il faut quand même se faire confiance aussi, parce que j'allais dire, c'est une sensibilité, les nouvelles encore plus, que c'est du format court. Mm. Et j'ai envie de dire, ces trois peut-être vont être moins sensibles ou plus sensibles, et puis ça peut toucher d'autres. Donc je crois qu'il faut quand même réussir à se faire confiance. Elles ont ce rôle pour guider et pour rassurer aussi, pour dire, allez, ok, donc là, je touche plus où je peux me lancer, mais je pense qu'il faut quand même se faire confiance.
Alors... De toute façon, quand j'écris une nouvelle... Au départ, je n'avais pas du tout l'intention de publier. Hein. Mais quand on écrit, en fait, je... C'est vrai. Je veux aller à un certain endroit et elles m'aident à aller à un certain endroit. D'accord. Elles ne me font jamais dévier de ma trajectoire. Mmh. Ça, c'est sûr.
Valérie, vous qui êtes en bibliothèque, est-ce que c'est un livre, un style de livre qui est encore très sollicité, la nouvelle?
Non.
Parce que moi, je trouve que c'est un format
parfait,
en fait.
Moi, j'aime beaucoup. Hein, j'en ai lu beaucoup plus jeune, pendant mes études. Mais ce n'est pas un format qui marche.
Pourtant, moi, je trouve que c'est le format parfait. Bah ouais, c'est un format beaucoup, court. On peut poser le livre.
Je ne suis pas sûre. Je ferai des statistiques, je vous dirai. Mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui sort le plus. Les romans. Mais parce que, je ne sais pas, les gens, ils ont d'autres... habitudes de lecture maintenant. Après, oui, si on le présente bien et que, genre, quand on fait nos clubs lecture, là, après, les gens vont le lire et vont se dire... Mais de eux-mêmes, ils ne vont pas forcément...
Parce que la nouvelle, ça a quelque chose d'hyper pratique, c'est que vous pouvez prendre le livre le soir, terminer sur un chapitre qui, finalement, clôture aussi l'histoire... Et puis reposer le livre sans laisser
Surtout quand on on ressort d'un livre de 1000 pages ou d'une saga comme Les Sept Sœurs, ou enfin voilà, qui ne finit jamais d'ailleurs dans ce qu'il y a une fin. Mais du coup, je trouve que c'est très bien et je pense que ça peut d'autant plus plaire aux lecteurs qui lisent beaucoup, parce qu'on aime alterner les styles de lecture. Et je trouve que c'est une parenthèse hyper intéressante et un format. Mais je pense que c'est méconnu.
En fait, il y en a très peu, en fait. C'est une image un peu désuète. Des nouvelles, parce qu'on pense à quoi? Aux nouvelles de Maupassant, des choses comme ça.
Oui, donc, peut-être un peu légère, et alors qu'en fait, un recueil de nouvelles, ça peut, et Claire en fait très bien la démonstration, ça peut être plein de sens et plein de profondeur dans l'histoire. Bon, Claire, c'est édité au Lys Bleu, donc c'est disponible partout au national.
Tout à fait.
Donc ça, c'est un premier pas dans la partie Claire Girard assume d'être auteur, avec un E à la fin. Comment est-ce qu'on peut venir à votre rencontre? Je crois qu'il y a une petite échéance demain.
Il y a une petite échéance demain, 14h-18h, je serai à la FNAC de Rouen. Donc si vous avez des cadeaux à faire, si vous avez envie d'y envoyer votre voisine, vos cousins, vos oncles, n'importe qui, le livre est rose. Alors ce n'est pas un livre réservé aux femmes, mais venez à ma rencontre et je me ferai un plaisir soit de discuter avec vous et d'échanger, soit de vous faire une jolie dédicace.
La couverture est super sympa, si les filles, vous pouvez nous en faire une petite description.
Elle se tient aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, donc ça résume bien la fin et le début. Donc c'est très poétique. Et d'ailleurs, moi, je veux simplement ajouter, moi, elle s'est présentée toute timide en arrivant dans le studio, pour l'avoir vue justement en séance de dédicace. Allez-y, parce que c'est une femme qui donne envie d'aller vers elle, qui est dans le partage, dans la communication, même si vous ne voulez pas acheter le livre, juste pour le plaisir de rencontrer cette femme. Allez demain à la FNAC. Et le livre, c'est un bonbon... comme ce qu'elle dégage, comme ce qu'elle...
Allez-y pour plusieurs raisons. D'abord parce que la FNAC sont des amis et partenaires de Culture en Demain. Allez-y parce que si Lucille et Isabelle ont accepté de recevoir Claire en dédicace, c'est parce que c'est un gage de qualité quand on sait qu'on a affaire à des libraires talentueuses. Et allez-y aussi parce que Claire est une belle personne qui dégage... le livre est à la hauteur de ce que Claire dégage. C'est pétillant, c'est sincère et c'est un très très beau livre. Alors on l'a reçu un peu tardivement pour la sélection, pour le prix littéraire Culture On Demain l'année dernière, parce qu'il est sorti un peu sur le fil. Mais en tout cas, on est très nombreux dans l'association à avoir eu le plaisir de le lire. Et sincèrement, c'est une petite pépite. C'est un très beau livre. Voilà. Donc demain, Claire ?
Demain, je serai à la FNAC.
14h à la FNAC,
tout à fait.
En haut des escaliers.
Hein, exactement.
Avec,
et je vous attends nombreux.
Le livre à la main. Et puis, on organisera un corridor de sécurité pour les milliers de fans qui vont se bousculer.
Bah, qui descendront jusqu'en bas des escalators.
Et si vous venez de la part de RVR, vous n'avez pas de réduction. Mais par contre, Claire vous fera un bisou.
Tout à fait.
Un mot à ajouter ? Le mot de la fin ? Est-ce qu'on, et on va faire comme dans le livre, vous savez ce qu'on va faire ? On va mettre à la fin de l'interview le même jingle qu'au début.
Question demain, la culture.
On va garder Claire avec nous, hein ? Puisqu'après tout, elle est membre de Culture On Demain.
Ah, si elle est disponible.
Comme si on allait lui laisser le choix. Vous avez tendance à être trop altruiste, chère Laetitia. Surtout quand vous êtes à cette place de...
Non, mais n'importe quoi.
De présentatrice principale.
Présentatrice en chef.
Exactement. Bon, et si on passait à votre rubrique à présent, Laetitia, je crois
avec
que...
Avec plaisir.
Alors, et je l'attends avec impatience, parce que je crois que celle-là, c'est moi qui l'ai commandée.
C'est un caprice de Rémi Rondelet.
Ouais. Allez, caprice de Rémi Rondelet, c'est maintenant, et c'est sur RVR.
La vie en prose par Culture On Demain.
De quoi on parle ?
Alors déjà, bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignaient spécialement pour la chronique La vie en prose. Et aujourd'hui, alors comme Rémi Rondelet vient de le dire, c'était une demande spéciale pour un de ses livres coup de cœur. Alors je ne fais pas des chroniques sur demande tout le temps, mais là c'était un petit peu exceptionnel.
Ne vous lancez pas là-dedans, c'est enfin.
Message, petit message.
Elle me rappelle.
Donc c'est pour rappeler, que c'est la seule et l'unique. Si je l'avais fait pour Auschwitz également pour l'anniversaire, mais ça suffit. En tout cas, voilà. Là, c'était un plaisir partagé parce que c'était redécouvrir un livre pour ma part. Et donc aujourd'hui, on va parler de Boris Vian et de son chef-d'œuvre « L'écume des jours ». Alors, il s'agit d'une œuvre qui mêle amour, jazz, satire sociale et poésie absurde. Mais avant toute chose, eh ben, mon cher Rémi, si vous voulez bien lire la quatrième de couverture.
Bah, je la lirai bien, Laetitia, mais presque j'aurais besoin... Pour lire la quatrième de couverture de L'écume des jours, j'aurais besoin d'une petite ambiance un peu jazz, vous voyez, un truc un petit peu, je sais pas...
Un petit Duke Ellington qui s'appellerait Chloé.
Allez, si on a ça dans les tuyaux, je suis preneur. Alors, L'écume des jours, de quoi ça parle ? L'écume des jours, c'est deux histoires d'amour qui naissent et qui s'entremêlent. Tout d'abord, Colin, un jeune homme riche et élégant. Il met fin à son célibat en épousant Chloé, tandis que son ami Chic, lui... admirateur du philosophe Jean-Saul Sartre, débute une relation avec Alice. Dans cet univers, tout est fantaisiste, léger et onirique, jusqu'à ce que nos héros connaissent, Laetitia, des heures beaucoup plus sombres.
Exactement. Je coupe un petit peu de Duke Ellington.
Eh oui, les heures sont plus sombres.
C'est ça. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est avant tout une histoire d'amour, dont celle notamment de Colin et Chloé. Donc Chloé, bah, qui tire son nom de ce morceau de Duke Ellington. Mais alors, rapidement, alors juste après leur mariage, hein, pour vous dire à quel point c'est rapide, leur bonheur est bouleversé par la maladie de Chloé.
J'en ai toujours le cœur fendu.
Voilà, qu'elle attrape juste pour leur voyage de noces. Elle développe un nénuphar dans son poumon. Alors ça, on pourra en parler plus
quelle
tard.
Quelle image magnifique.
Voilà, une image. Certains parlent de la tuberculose, d'autres d'un cancer et d'autres de la dépression. Moi, j'aime aussi bien cette...
Ah,
voilà une piste que je n'avais
donc on pourra en parler, mais j'ai longtemps réfléchi après et je trouve que cette probabilité que ça soit la métaphore de la dépression est probable, notamment avec les bouquets de fleurs dont elle a besoin pour se guérir du nénuphar. Colin devra couvrir et acheter des bouquets de fleurs. Voilà, donc là tout bascule. Lorsqu'elle attrape cette maladie, et ben leur maison se rétrécit, leur argent s'envole et leur monde devient marécageux et oppressant. Alors,
et là, il y a encore une fois une image magnifique.
Exactement.
Face à la maladie, vous avez votre univers qui se restreint et tout devient un petit peu oppressant. Enfin, pour moi, c'est une masterclass, ce livre.
C'est ça. Et puis, ce n'est pas qu'une image, parce qu'il y a vraiment des marécages, il y a vraiment de la boue, il y a vraiment les pièces qui rétrécissent. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a pas de frontière entre l'imaginaire et le réel. Donc, c'est la pataphysique, c'est-à-dire que l'imaginaire est au niveau du réel. Donc on voit vraiment les pièces rétrécir. C'est très, très intéressant. Et alors, ce n'est pas une simple histoire d'amour, hein, comme vous l'aurez compris, c'est aussi une critique de notre société.
Une véritable parodie, même.
Oui, oui. Exactement. Alors, c'était là après la guerre, mais je crois qu'elle marche encore pour beaucoup de...
Oui, c'est, clair.
C'est vraiment, vraiment d'actualité. C'est pour ça que c'est classique, on en parlait l'autre jour. Ils plaisent parce qu'en fait, ils sont intemporels et ils nous parlent à n'importe quelle époque. Donc là, c'est une critique, mais avec un humour noir incroyable et une poésie alors, inimitable. Hein, vous parliez de masterclass. Mais bon, dans cette œuvre, le travail déshumanise. On a la religion qui devient marchande. On a l'argent qui brûle les doigts. La philosophie qui est réduite à un culte de la personnalité, d'ailleurs, qui est
Jean
Solpart. Avec Jean Solpart, pour ceux qui
Il faut remettre dans le contexte des années 50 et de la libération et de la présence américaine sur le territoire français avec l'arrivée du jazz, tout ça, toutes ces ambiances. Et en même temps, ces donneurs de leçons universelles que sont les philosophes modernes du XXe siècle. Jean Solpart, c'est ni plus ni moins que
Jean-Paul Sartre.
La critique, la satire complète d'un Jean-Paul Sartre qui a un avis sur tout et qui s'impose comme maître de la pensée. Mais c'est des choses qui restent hyper modernes. On pourrait tenir le même discours pour des Bernard-Henri Lévy aujourd'hui.
Donc c'est un livre qui
parle.
Boris Vian, il n'aimait pas vraiment qu'on pense tous la même chose.
Non. C'est aussi une des leçons du livre, mais on en parlera.
Exactement. Et donc la religion également, elle est montrée du doigt et c'est un véritable fonds de commerce. Il y avait la médecine aussi qui était critiquée. Donc en tout cas, c'est un véritable conte burlesque où le désespoir tourne au comique. On a en fond une musique jouée par un piano cocktail. Donc quand on dit que tout est inventé, que l'imaginaire se mêle au réel, là le piano cocktail, c'est un piano qui prépare des cocktails en fonction des notes jouées.
C'est drôle, ça.
Donc ça c'est une création
pure. J'ai une admiration
pure.
Sans faille pour Boris Vian.
Ah oui, non, mais c'est génial ça.
Parce que je trouve qu'il a inventé un monde dans l'ensemble de son œuvre, un monde un peu léger, un peu décalé, qui fait du bien, qui réchauffe, sujets les plus graves.
Exactement, et c'est un véritable monde, c'est un univers à lui seul. C'est très dur de faire une chronique là-dessus, parce que je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas vraiment, et je crois que son écriture...
On lit comme si on était bourré.
Ah, merci, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais dire, j'ai eu un état proche de l'ébriété.
Ouais, voilà.
On se dit, mais est-ce que c'est moi qui ai un problème? J'ai peut-être abusé un petit peu ce soir.
Il n'y a rien qui va quand on lit L'écume des jours. L'histoire est triste. C'est le malheur absolu d'un couple qui va tout perdre parce que Colin, il va perdre l'amour qu'il a rencontré. Et pourtant, on lit ça avec ce restant de Duke Ellington derrière en fond sonore, qui est l'incarnation même d'un moment joyeux. C'est complètement ahurissant. Enfin, moi, je peux le lire 20 fois, je m'en remettrai jamais.
C'est ça. Et puis, on passe de Duke Ellington à Colin qui parle à une souris.
Oui.
Et la souris, on n'arrive même pas à se dire, mais qu'est-ce qu'elle représente? Parce que la souris devient même autre chose qu'une souris.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que son univers s'effondre et se réduit, il réinvente un quotidien imaginaire.
Oui.
Et effectivement, peut-être, j'avais jamais envisagé cette piste, mais peut-être que le nénuphar qui ronge Chloé, c'est la dépression. Et que face à la dépression, lui s'enferme dans une forme d'isolement et de folie.
C'est ça, il y en a qui ont également dit donc que c'était pas la tuberculose, que c'était au final ce nénuphar, la dépression, parce qu'en fait Colin, il était un petit peu dans un monde, vous savez, de l'imaginaire de l'enfant, comme s'il voulait pas sortir. Il y a beaucoup beaucoup de choses où
un syndrome de Peter Pan des années 50.
Voilà, exactement. Et d'un coup, il a décidé de tomber amoureux. Il fallait tomber amoureux, et au final cette Chloé, c'est vrai qu'à part être allongée sur son lit, on la voit pas beaucoup. Donc ils sont tombés amoureux très vite, ils se sont mariés en l'espace de 2 secondes, et du coup après la stéta où ça pourrait être se dire c'est une dépression parce qu'ils sont allés presque trop vite. Enfin, c'était être amoureux de l'amour, mais finalement sans vivre
comme
véritablement l'amour.
C'est ça, c'est un peu l'allégorie de l'amour qui les aurait consumés, en fait.
Exactement. Donc il y a plusieurs messages.
Et on a l'impression qu'il a inventé ce monde pour rester dans le monde de l'enfant, justement, qui voudrait pas voir ce réel. C'est pour ça qu'on a un univers entier qui est créé. Et en même temps, c'est comme si la réalité, la brutalité de la mort le rattrapait malgré tout, parce que voilà, on a beau se protéger, elle est cruelle, parce que la fin est terriblement cruelle. Vous, Valérie, vous l'aviez beaucoup aimé aussi, je crois.
Moi, je l'ai vu
plusieurs fois.
Ouais, je l'ai lu adolescente, je l'ai relu à la vingtaine. C'est un livre que je relis, je sais pas, tous les 5-10 ans.
C'est un livre que j'ai dû conseiller 200 fois dans ma vie. Et à chaque fois que quelqu'un dépasse le stade de la paresse et se lance dans la lecture de l'écume des jours, je n'ai que des gens qui reviennent bouleversés.
C'est un des livres qui m'a le plus marqué.
Et c'est un livre qui, de par son côté un peu... On pourrait le classer presque dans la fantasy aujourd'hui.
Oui, il y a des contes.
Ouais. Ouais. Mmh. Et c'est un livre qui, je pense, restera très longtemps intemporel.
Et puis, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ce... Enfin, quelqu'un qui n'aimerait pas ce monde-là, imaginaire un peu, en fait, on arrive à rentrer quand même dedans. Tout en n'étant pas...
Mais en fait, on se demande tellement dans quoi on rentre que c'est vrai que tout du coup, on se dit, oui, il nous amène. Enfin, moi, à chaque fois, voilà, je voulais essayer de comprendre où est-ce qu'il nous amenait. Et puis, c'est aussi un hommage à la langue française. Enfin, je tiens à dire, voilà, il y a le Jean-Paul Sartre. En fait, ça, c'est bourré de jeux de mots. Et du coup, même parfois, on se revoit relire la phrase quatre fois parce que dans la même phrase, il y a deux jeux de mots et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Il y a même des jeux de mots qu'on peut voir qu'à l'écrit. Enfin,
dites-vous qu'on en ressort émerveillé avec nous. Aux yeux de 2025, il y a une multitude de choses que nous ne comprendrons jamais dans cette œuvre, parce qu'on n'est plus dans le contexte des années 50, et Boris Vian, c'est une véritable revanche pour lui, ce livre, parce que c'est l'époque des azous, du jazz, et en fait, vous avez tous ces grands philosophes qui s'autoproclament maîtres de la pensée, et qui ont tendance à le critiquer un petit peu facilement, parce qu'il a écrit des chansons légères, parce qu'il est un petit peu décalé dans son œuvre, et en fait, ce livre, pour moi, c'est ce qui, pour la première fois, va mettre Boris Vian tout au sommet de la littérature française, avec la reconnaissance qui va avec. Et il y a une multitude de petites attaques personnelles, de petites vengeances dedans.
Il y a d'ailleurs beaucoup de renvois dans le livre. Enfin, dans moi, l'édition en tout cas que j'avais, il y avait beaucoup de renvois pour comprendre le contexte dans lequel il était. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, je crois que c'est très dur. Là, j'ai voulu faire cette chronique parce que M. Rondelet l'a demandé, puis M. Rondelet est le chef.
Culture en demain est une dictature.
Mais en fait, c'est pas juste une histoire triste ou un conte burlesque comme on a pu le raconter. C'est vraiment une expérience sensorielle, émotionnelle, unique. Et je crois que les émotions, elles se propagent un petit peu comme le nénuphar chez Chloé en nous. Et puis elles restent, parce que moi, je vois que j'y repense.
Ça nous contamine.
Voilà, j'essaye de me dire, mais est-ce qu'il a voulu nous dire ça? C'est quelque chose qui nous colle, et je pense qu'en effet, de le relire plusieurs fois, comme certains livres, on doit avoir une perception à chaque fois différente.
C'est exactement ça.
Et au-delà de ça, peut-être que si on s'en tient purement et strictement à l'histoire, en plus, l'histoire est belle. L'histoire est bouleversante.
Vous allez me donner envie de le relire. Je ne l'ai lu que adolescente et j'ai été frappée par deux sentiments, moi, une totale incompréhension, une espèce de malaise, mais où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il fait, et en même temps une espèce d'admiration pour son esprit de création, de tout ce qu'il faisait et du monde qu'il créait, et c'était assez c'était déstabilisant. Je me souviens d'avoir été déstabilisée.
Claire, vous savez quel est le sentiment qui m'a, moi, lors de mes premières lectures de ce livre, qui m'a le plus marqué? C'est que son univers, il est tellement chantant, tellement croustillant, qu'on n'a pas envie qu'il arrive quelque chose à Chloé. C'est-à-dire que cette histoire d'amour, elle est fraîche, elle est belle, elle arrive sur le devant de la scène comme ça. Très rapidement, effectivement, Colin et Chloé se rencontrent, c'est l'amour fou, ils se marient. Et tout de suite, la maladie, quelle qu'elle soit, finalement, ce nénuphar leur tombe dessus. Et on se dit, merde, leur quotidien à eux aussi peut être rongé par la noirceur. Et moi, j'avais pas envie de ça. Je crois que j'ai toujours pas envie.
Oui, on pensait que dans ce monde, dans cet univers qu'il a créé, on pensait que ça allait être hermétique à la
exactement,
douleur, en fait.
C'est ça. Et il a écrit une autre œuvre qui s'appelle J'irai cracher sur vos tombes. Et si je pouvais aller sur la tombe de Boris Vian, j'irais bien cracher dessus pour lui dire salaud. Ça aurait pu mieux se finir que ça.
En tout cas, c'est très dur. Moi, rationnellement, j'ai encore du mal à expliquer pourquoi ce classique, je l'ai autant aimé, alors qu'il est autant éloigné des goûts habituels que j'ai, en fait. Il est inclassable. Et je crois que ça, c'est ça la marque d'un génie. Et en fait, à la fin du livre, ça m'a fait sourire et je me suis dit, je comprends pourquoi, pour lui, il disait que finalement, la musique noire américaine et l'amour, c'était ce qui pouvait sauver le monde. Et je crois que c'est ce que j'avais envie de retenir avant d'essayer de comprendre des philosophies un petit peu plus... J'avais besoin de légèreté. J'ai dit, ah, en fait, il voulait nous montrer juste ça.
J'aime bien la phrase que vous aviez écrite dans le synopsis de votre chronique, mais que vous n'avez pas lue parce qu'on se laisse emporter par un tourbillon de sentiments quand on a lu un livre comme ça. Mais j'aime bien la phrase que vous avez écrite qui consiste à dire que la musique jazz, eh bien, elle apporte une dimension de liberté et d'amour face au désespoir qu'il rencontre, en fait.
Exactement.
Enfin, vous l'aurez compris, moi, ce livre continue de me bouleverser.
Mais je crois qu'on est tous d'accord. Bah, en tout cas, si ça a donné envie, rien qu'à Claire, de le relire, ou à d'autres auditeurs, bah, écoutez, j'en suis ravie. Et puis, je crois qu'on a tous des interprétations qui diffèrent. Je crois qu'il n'est plus là, de toute façon, pour nous dire. Donc, autant se laisser emporter par l'univers et en comprendre ce qu'on doit comprendre en le lisant. Et c'était un plaisir pour moi de le relire. Donc, merci, Monsieur Rondelet.
Mais je vous en prie. Je trouve que cette chronique était très bien. C'est sans doute lié à l'absence de Denis Beauchamp. Merci Laetitia pour cette belle chronique.
Avec plaisir.
La vie en prose par Culture en Demain.
C'était La vie en prose en deuxième partie de Culture en Demain. Encore un vendredi à l'antenne avec vous. J'espère que cette émission vous a plu. On vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas demain à faire la queue devant la FNAC. Le service d'ordre vous orientera. Si vous venez de la part de Culture en Demain, vous éviterez les 3 heures d'attente pour rencontrer Claire Girard, qui vous dédicacera son livre La fin du début. Et non pas le début de la fin, même si on peut le lire dans les deux sens. Merci Claire d'avoir été avec nous et d'avoir partagé cette émission. On était très heureux de vous recevoir. Merci les filles d'avoir été là.
Moi j'ai demandé ma dédicace maintenant. Ça m'évitera de faire la queue demain.
Et pour tous les auditrices et tous les auditeurs qui étaient avec nous, eh bien, rendez-vous demain à la FNAC à 14h pour rencontrer Claire Girard. Et pendant que vous êtes dans les rayons, n'hésitez pas à vous procurer un petit Boris Vian. C'était Culture en Demain, on a passé un très bon moment avec vous, on se retrouve vendredi prochain, passez un bon week-end et d'ici là, n'oubliez pas...
Culture en Demain.
Culture en Demain, la culture...
Oh.